Je remercie vivement Colette Nativelle pour cet exposé si riche et si cohérent autour d'un sujet qui nous amène au centre de notre réflexion. Et je me permets, comme nous avons encore quelques minutes, d'abonder d'une certaine manière dans votre sens. En effet, vous avez choisi un peintre et un moment de l'histoire européenne extrêmement important. Et je vais d'abord déjà souligner ce que vous avez dit. Rubens, c'est en même temps un peintre, mais aussi un diplomate. Et donc, au moment où il prépare le sujet de ses tableaux, je dirais, l'urgence politique est là. Et dans ces entrées qui sont quelquefois des éléments éphémères, c'est-à-dire qui sont faits pour l'entrée de tel prince, personnage, cardinal, etc., eh bien, il y a l'élément politique du présent, du moment même. Et vous avez souligné un élément absolument capital pour comprendre, je dirais, les foyers les plus importants du XVIIe siècle, c'est-à-dire le besoin de la paix, l'allégorie de la paix, la nécessité de la paix. Je remarque sur ce point la collaboration absolument magnifique qui s'instaure aux Flandres entre Rubens et un auteur qui deviendra le théoricien du concetto en Italie, c'est-à-dire Emanuele Tesauro. Tesauro était envoyé par le duc de Savoie aux Flandres. Il voit les entrées dépeintes par Rubens et il écrit un panégyrique en prenant les mêmes termes de Rubens qui devient Aurora Consurgens, l'aurore qui surgit, mais il ne s'agit plus dans ce cas-là de l'aurore portée par la victoire espérée des armées catholiques sur les protestants, mais du triomphe de la Vierge. La Vierge qui, comme l'aurore, surgit pour renouveler le monde, nous libérer du péché, etc. Et un jeune élève qui a travaillé sur ce thème, Marco Maggi, a bien montré cela avec même des détails. Donc il y a tout un passage de Rubens à Tesauro. Rubens était une autorité au niveau, je dirais, non seulement de la renommée artistique, mais aussi de sa lecture des faits politiques. Et Tesauro l'introduit dans vraiment sa théorie du concetto. Et deuxièmement, cette allégorie de la paix ou cette nécessité de la paix explique d'une certaine manière, mais c'est aussi une question que je vous pose, si vous êtes d'accord, si vous avez des suppléments à nous apporter, le fait qu'à un moment, on a pu, ici même à Paris, admettre et presque, je dirais, imposer un poème énorme, foisonnant d'images, etc., c'est-à-dire la Donne de Marino, du fait que le sujet, comme nous l'avons vu constamment ici, le sujet est, comment dirais-je, les arts du repos, l'amour. Après l'amour, Vénus, la quête évidemment de tout ce qui est l'objet du travail du repos, c'est-à-dire les arts, la pensée, les lettres, etc., en sachant que ce poème suit l'autre qui était entièrement consacré à la guerre de la restitution à la chrétienté de Jérusalem, c'est-à-dire la Jérusalem délivrée du Tasse. Alors, vous avez un poème qui est entièrement un poème de guerre, une mythologie de guerre, et d'autre part, vous avez presque à l'inauguration du siècle nouveau une immense allégorie de la paix. Et c'est un élément vraiment porteur pour comprendre le XVIIe siècle. Ici, on l'a vu d'une manière admirable. Ces Vénus n'est pas seulement, ne sont pas seulement l'allégorie de l'amour, mais bien souvent, comme vous l'avez souligné, l'allégorie de la paix. Et là, il y a vraiment des recherches importantes à faire. Par exemple, il faudrait étudier ça, on l'a fait, mais je crois sans ce soubassement de conscience politique, pour le triomphe des bergers d'Arcadie. Ce n'est pas seulement le fait que c'est un nouveau mythe, une espèce de de retour de la culture d'Arcadie, de la Grèce, etc. Mais c'est aussi le besoin de la paix, une manière de sauvegarder au moins à l'intérieur de nous-mêmes la paix. On le voit du reste à la fin même, je l'ai déjà dit, mais maintenant c'est vraiment le moment de le souligner parce que vous avez porté des arguments si essentiels. Le final de la deuxième partie du Quichotte nous le montre. Quichotte abandonne le terrain qui était son terrain à lui. Les armes, les livres, les attitudes du chevalier errant pour imaginer une dernière fois, c'est sa dernière proposition avant de mourir, de venir avec ses amis, avec Sancho bien évidemment, avec le curé et avec le licencié de son village, des bergers d'Arcadie. C'est un projet qu'il caresse peu avant sa mort. Mais encore une fois, et si vous voulez, avec toutes les limites que Cervantes avait déjà esquissées dans la nouvelle exemplaire que je vous ai lue hier, enfin, je n'ai pas lu ce passage, ce qui me permet peut-être de le faire. Quand Cervantes publie les nouvelles exemplaires 2 ans avant, donc 1614, la publication de la deuxième partie, la seconde partie du Quichotte, et il y a dans l'une de ces nouvelles exemplaires, comme je vous ai dit hier, le dialogue des deux chiens, l'un desquels a été longuement un chien affecté à un troupeau dans les bois, dans la campagne, et il dit à son ami, il dit, ah mais la vie des bergers est autre que celle qu'on nous décrit dans les textes. D'abord, leur nom n'est pas Phylis, n'est pas, etc. Et après, toute la liste des bergers d'Arcadie venant déjà de San Lazzaro, mais ces bergers s'appellent normalement Laurent, Pierre, etc. Hein? Donc, et puis, ils ne chantent, j'ai jamais vu un instrument de musique, ils ne chantent pas, ils courent derrière leurs brebis, ils doivent chercher des pâturages, tirer le lait, etc. Je ne vois pas non plus chanter des poèmes, ils sont ignorants, ils n'ont pas, connaissent même pas les lettres, etc. Donc il y a toute une contre-Arcadie qui est décrite dans cette nouvelle par le chien qui était affecté, il devait évidemment défendre les brebis des loups, hein, sauf que les loups étaient les bergers même qui tuaient les meilleurs pour manger la bonne viande la nuit. Donc il y a toute une critique de la société humaine. Mais cela dit, et même avec les réserves faites dans ces nouvelles exemplaires, c'est vrai que Quichotte, à la fin, veut suggérer une dernière métamorphose, pour ainsi dire, de son idéal, l'idéal de la paix et de l'Arcadie. Si vous le permettez, je fais encore juste... je souligne encore un autre élément que vous avez évoqué, le fait que donc Rubens, c'est quelqu'un qui tient une correspondance, qui écrit, là vous avez évoqué un texte de description, un ekphrasis magnifique, mais c'est aussi quelqu'un, vous l'avez souligné, qui appelle les princes chrétiens à leur devoir. Vous êtes des chrétiens, vous ne devez pas mener la guerre contre d'autres chrétiens, mais éventuellement contre les Turcs. Eh bien, c'est exactement à la lettre l'argument qu'Érasme avait suscité dans son Enchiridion Militis Christiani, manuel du chrétien. Il dit, et les chrétiens d'abord sont pour la paix, la célèbre description de l'homme qui naît complètement nu, sans aucune... Du reste, c'est aussi l'une des raisons, la paix est toujours nue, parce qu'elle n'a aucune défense, elle est la pure nature, comme vous l'avez dit à l'origine. Donc l'homme naît complètement nu, n'a pas d'écailles, n'a pas de cornes, n'a pas d'instrument d'offense. Et Érasme, après avoir décrit cette condition humaine, il dit l'homme n'est pas fait pour la guerre, il est fait pour la paix, mais si jamais il est nécessaire de mener la guerre, il faut la mener contre les Turcs qui occupent les lieux saints. Hein, et jamais entre la chrétienté. Donc il y a toute une conscience, et on voit bien que Rubens, c'est un vrai héritier de ce principe fondamental qui vient d'un certain, pour ainsi dire, érasmisme. Voilà, donc je me suis permis simplement de lier votre exposé si magnifique à notre cours et à nos séminaires, et je vous laisse la parole parce que là j'ai même surabondé dans mes corollaires. Voilà. Puis, bien sûr, les auditeurs ont tout le temps, on a encore abondamment pour poser des questions.
Oui, en évoquant d'un côté, je vous remercie d'ailleurs des gentillesses que vous avez à mon endroit, mais effectivement, en évoquant la donne, en évoquant Thésaure, vous avez, il y a une présence aussi qui est très importante, mais par rapport à tout ça, c'est Marie de Médicis, finalement, cette présence, puisque Marinon, en 1620, est à Paris, que Thésaure est piémontais, que la fille de Marie épouse le roi du Piémont. Il y a là tout un cercle aussi, et que toute une circulation finalement qui se fait grâce à Marie de Médicis. Et puis bon, je rappelle aussi bien évidemment la présence de Rubens à Paris pour le mariage d'Henrietta cette fois d'Angleterre. Hein, il y a donc à la cour de France, à la cour de Marie de Médicis, d'étonnantes rencontres, effectivement, qui ont été très souvent occultées par l'historiographie du XIXe siècle. Hein, c'est ce qui était ressorti du colloque qu'avait organisé Marc Fumaroli, enfin François Graziani et Francesco Solinas il y a longtemps maintenant, qui s'appelait le siècle de Marie, justement. Et on avait remis à plat un certain nombre de questions lors de ce colloque. Et effectivement, il apparaît au niveau européen, justement, qu'il y a cette tendance, et également au niveau du mécénat, mécénat littéraire, mécénat pictural, parce que Marie n'était pas une grosse croqueuse de diamants comme on la présente finalement au XIXe siècle. Hein, elle est réduite à ça dans l'historiographie. Et elle a réuni autour d'elle des gens comme Marino, effectivement, comme Rubens, et elle a permis effectivement ces échanges aussi européens, parce qu'ils sont liés aussi à la paix. C'est cette politique de paix, elle fait quand même épouser à sa fille un hérétique, le roi d'Angleterre, hein, même si dans le contrat il est marqué qu'elle doit réussir à convertir le roi, malgré tout, elle lui fait épouser un hérétique à sa fille, c'est assez étonnant. Bon. Et donc il y a ce lien entre la poésie, aussi la vision du monde, Don Quichotte aussi, vous évoquez. D'ailleurs, le Quichotte à ce moment-là est extrêmement lu en France. Hein, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites sur les publications du Quichotte qui sont absolument étonnantes. Il y a même des galeries de peinture que notre cher ami Gabriel Quaranta a étudié très très bien et qui représente l'histoire du Quichotte. C'est vraiment, on a du mal à. Enfin, pendant longtemps, on n'a pas évalué suffisamment cette influence, enfin cette présence plutôt de Quichotte à Paris. On est resté plus axé sur la question de l'Italie, encore que dans le premier 17e siècle, apparemment, la lecture pendant un certain des livres italiens est un petit peu en baisse au début du 17e, elle repart après par la suite. Mais c'est effectivement le Quichotte qui est très important. Et ça, il faut insister sur cette question. Également, ces modèles, donc, alors, lecteur des grandes épopées italiennes, finalement, qui va revenir à la mode avec le Tasse Ariost, bien sûr, hein, mais aussi une vision héroïque du monde. Je crois que c'est aussi un point important de l'homme baroque. Ça, c'est pas l'homme renaissant est moins son héroïsme est de nature différente. Il n'y a pas cet héroïsme européen en quelque sorte, quand Marie de Médicis se fait représenter en Bellone. Hein. C'est ce qui ouvre la. Là voilà. Notre Marie de Médicis en Bellone qui ouvre la galerie, justement. Hein, là encore, j'aurais pu le prendre comme exemple de polysémie. On a absolument tout. On a l'antique, on a une Athéna, enfin Bellone, mais une Athéna et une reprise de l'Athéna de Phidias, puisque la Marie tient dans sa main une petite statue comme le tenait l'Athéna de Phidias. On a ensuite la France, hein, puisque sa robe est fleurdelysée. Et on a enfin la Vierge Marie, puisqu'elle est en rouge et bleu. Tout simplement, elle s'appelle Marie, donc elle est en rouge et bleu. Oh là, oui, on voit assez mal. Voilà, donc la petite statuette dans la main est là. Donc, vous voyez les fleurs de lys sur la robe. Le rouge et le bleu, donc, c'est la Vierge Marie. Et on a, là aussi, c'est un très bon exemple de concentration dans l'allégorie, de multiplication de signification. Et cette Marie représente aussi, puisqu'on parlait de cette question de la guerre, hein, de cette guerre. La guerre est nécessaire quand il faut la faire, hein, mais il faut la faire d'une façon, j'allais dire, convenable. En fin de compte, il faut éviter les excès du terrible Mars, hein, qui est très, très, très systématiquement, je vous l'ai montré, hein, représenté comme un soudard, qui pratique une violence gratuite. Il y a l'idée d'une guerre juste que l'on trouve, d'ailleurs, c'est aussi la tradition que j'avais constatée en travaillant sur les emblématistes il y a quelques années, effectivement. Hein, les emblématistes sont des juristes de surcroît très, 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 très fréquemment, et on a cette présentation, effectivement, de la guerre nécessaire. On n'est pas pacifiste. Et la guerre nécessaire, c'est aussi, alors je reviens aux conséquences de la guerre, qui sont des tableaux que je préfère d'ailleurs dans l'absolu, et ces conséquences de la guerre, justement, qui évoquent l'union nécessaire contre les infidèles qui sont quand même, à ce moment-là, en Hongrie, qui sont aux portes de l'Europe. Donc, et ça c'est un point très important. Et toute cette littérature héroïque, justement, fait écho à cela. Hein, elle essaie de trouver des... Bon, avec Quichotte, on essaie de trouver, puisqu'on est sur le mode de la dérision cette fois, mais on essaie de trouver des réponses à des situations qui sont extrêmement choquantes pour les contemporains. Avec l'Arios Eltas, cette fois, il y a une héroïsation des figures qui se traduit dans la peinture, mais toujours au centre de tout ça, cette recherche de la paix qui est fondamentale. Et là, il y a un autre texte qui avait été important dans mes travaux pour... Bon, qui est publié d'ailleurs dans le siècle de Marie, avec un titre raté, parce que je n'avais pas corrigé le titre. Hein, ce n'est pas l'entrée de Marie de Médicis à Anvers, mais c'est l'entrée de Marie de Médicis à Amsterdam que j'avais étudié. Bon, on n'a pas corrigé le titre après, peu importe. Et cette entrée est très importante parce que justement, on a le regard de calviniste, hein, sont des calvinistes qui l'accueillent à Amsterdam. Hein, donc une joyeuse entrée extraordinaire. On a vraiment fait de grands frais pour Marie de Médicis, et elle est présentée effectivement comme la veuve d'Henri IV. Elle aussi la présence d'Henri IV, elle incarne cette présence d'Henri IV et la fidélité à la politique d'Henri IV. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent et que les bourgeois néerlandais n'ont pas oublié. Et les liens aussi il y a des liens également avec Florence qui sont évoqués, très très lointains, mais surtout, et le fait qu'elle est aussi la mère de Sainte-Croix, et donc elle est une garantie de la paix dans toute l'Europe. C'est vraiment une idée qui traverse toute l'entrée de Marie de Médicis à Amsterdam. Donc il y a peut-être cette figure qu'il faudrait... Il faut mentionner quand même le livre de Jean-François Dubost, j'allais oublier de le faire. Hein, il a un gros livre qui est paru récemment sur Marie de Médicis, il y a 2 ou 3 ans, c'était sa thèse, hein, qui est un ouvrage absolument admirable. Mais là encore, on a cette... Voilà, cette pensée européenne, bon, ça circule entre l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Nord. Et une pensée de la paix.
Je vous remercie beaucoup de cette précision, de ce complément, et notamment la définition d'homme héroïque qui caractérise le XVIIe siècle. Et cela me donne l'occasion de rappeler un titre fondamental. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ce sujet dans mon cours, donc à plus forte raison, je l'évoque maintenant, c'est-à-dire Baldassare Gracian, El Héroe. Il y a vraiment un traité du grand théoricien du baroque en Espagne, donc Baldassare Gracian, qui consacre l'un de ses volumes à El Héroe, l'héros, le héros. Mais si nous regardons du côté italien, les discours théoriques du Tasse ont comme titre Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, discours de l'art poétique et du poème héroïque. Et dans la longue bataille autour de la primauté de l'Arioste ou du Tasse, l'un des arguments essentiels qui sont développés, c'est que le poème s'appelle poème si il y a des scènes héroïques, c'est-à-dire si on met en scène des héros. Mais si on met en scène des gens qui deviennent fous pour des raisons d'amour, qui se perdent en Asie, ou bien des lieux où il n'y a que des enchanteresses, des magiciennes, comme justement dans le cas du Boiardo et de l'Arioste, eh bien, ça n'est pas un poème héroïque. Et évidemment, d'autres peuvent dire, ah, mais le Tasse a trop respecté l'unité de temps, lieu et action, de sorte qu'il n'y a que Jérusalem et ce qui est autour, ce qui est vrai, tandis que l'Arioste vous porte du Cataï jusqu'à la Lune, et donc il y a une plus grande liberté. Bon, la question a été longuement discutée pendant plus qu'une décennie. Mais le centre était, est-ce que le poème est, oui ou non, le lieu d'un acte héroïque? Et le XVIIe siècle hérite de cela. Ce qui nous amène aussi, pour souligner un autre aspect de votre conférence, qu'on oublie assez souvent, Marc Fumaroli l'a repris il y a 2 ans dans son colloque Les Arts de la guerre et de la paix, c'est le fait que vous avez montré un cas important de ce qu'on appellerait au XIXe siècle une peinture historique. On a trop insisté sur le fait que l'art du XVIIe siècle est un art riche en inventions, en nature morte, en toutes sortes d'éléments où la nature foisonne, mais dans une espèce de disposition artificielle. Mais on oublie, et surtout grâce à Rubens, que le XVIIe siècle est aussi, et presque, je dirais, essentiellement, un lieu où les arts expriment une peinture, une attitude de représentation de l'histoire, pour plusieurs raisons. La première, qui est un peu, qui vient, de la contingence théologique, c'est que le vraisemblable est admis, l'invraisemblable, non. Ou enfin, on prend les risques de représenter l'invraisemblable. Or, le fait historique est le plus vraisemblable qu'on puisse imaginer, puisque un effet a eu lieu. Alors, ce qui a eu lieu est vraisemblable parce qu'il a eu lieu. Et donc, il y a déjà ce caractère, de prudence ou de nécessité historique. Mais les genres mêmes de l'écriture littéraire sont de plus en plus historiques. J'ai fait là une petite rectactatio augustinienne. J'ai moi-même suscité ici des séminaires sur, le langage mystique au XVIIe siècle, pour un vocabulaire mystique au XVIIe siècle, etc. Tout cela est vrai et même abondant au point de vue de la production littéraire, mais il ne faut jamais oublier que le XVIIe siècle hérite et relance le genre de l'écriture historique. Paolo Sarpi. Paolo Sarpi est le premier qui écrit, juste à la fin, ou une décennie après la fin du Concile de Trente, une histoire du Concile de Trente. Je dirais la conscience historique du présent devient de plus en plus aiguë dans tous les pays, et je crois que là, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en charge. Le XVIIe siècle est aussi un siècle de réflexion historique. Alors, évidemment, dans cette peinture historique, les sujets venant de la tradition gréco-romaine sont absolument essentiels. Et Rubens aussi a fait beaucoup de tableaux concernant justement les éléments historiques, historiques de la tradition romaine, des grands moments qui peuvent du reste concerner, mais là je vous laisse la parole, est-ce que ça concerne aussi la représentation de l'État, l'idée même d'État qu'on a au XVIIe siècle par le biais de la peinture? Vous avez déjà bien sûr évoqué le cas de Marie de Médicis, mais est-ce qu'à votre avis on peut avoir, j'ai à l'esprit une série de tapisseries de Rubens qui sont maintenant au Liechtenstein, c'est ça, et qui sont en effet un sujet historique romain très très fort. Mais je vous laisse là, vous êtes la spécialiste.
C'est la série Constantin, effectivement, la grande série de tapisseries de Constantin. Mais ce qu'il y a effectivement, c'est un renouvellement du rapport, enfin de l'histoire qui est très important. On a encore au début du... Alors je vais prendre l'exemple de... Je prends des exemples que je connais en Italie, je suis moins au fait de l'enseignement en Italie qu'à Leyde, aux Pays-Bas, justement. Et il y a Gérard Vossius, donc le père d'Isaac Vossius, qui était un historien aussi, eh bien, a un cours de chronologie. Et il y a énormément en Italie aussi, je n'ai pas les titres en tête, les auteurs en tête, mais il y a cet effort déjà d'organiser, en fin de compte, le temps. Ça n'est pas simple du tout. Pour nous, ça, on a des chronologies qui sont fixées depuis très longtemps, mais il y a toutes sortes de débats, de débats de datation. Il y a des manuels de chronologie qui existent. Donc, Gérard Vossius, donc le grand rhétoricien, était professeur a eu un cours de chronologie. Ça, c'est très important. Puis, deuxièmement, il y a un changement. Alors, je crois que l'histoire, l'histoire antique, elle est découverte. C'est vrai, c'est un grand événement dont Montaigne parle. C'est la traduction d'Amiot. De Plutarque, c'est la découverte de ces grands hommes de l'Antiquité, et c'est des modèles, sont des exemples. Il y a toute une première attitude, une attitude qui existe encore au XVIIe siècle, une sorte d'empathie. On va chercher des exemples, des modèles. On ne va pas chercher à comprendre des faits très souvent. C'est un petit peu une évolution qui va se faire un peu plus tard, et on la voit effectivement, ça va se développer. Je ne suis pas dans les 30 premières années du 17e, petit à petit, et justement avec des histoires, beaucoup d'histoires de l'Église aussi, elles sont extrêmement nombreuses, l'histoire du Concile de Trente, bien sûr, mais aussi de l'histoire des églises, de la première Église. Il y a tout un travail de réflexion qui est fait, qui est associé aussi à des découvertes. On découvre c'est Bozio, la Roma souterraine. On découvre des catacombes, effectivement, et on cherche à les... Et c'est comme ça que la méthode historique est en train de naître petit à petit, puisqu'on va confronter les peintures, les images qu'on trouve au texte, et petit à petit, on cherche à expliquer et non plus à trouver des modèles dans cette histoire. Et un des auteurs qui est fondamental, me semble-t-il, dans cette affaire, c'est la fin du XVIe siècle, c'est Juste Lips. Juste Lips, donc, qui est un personnage, le grand représentant du néo-stoïcisme, aux pays, en Flandre, et puis bon, il va partir un petit peu à Leyde, et puis il va revenir aussi, il va revenir ensuite dans les Flandres, trouvant que le calvinisme ne convenait pas à ses chères études, il va rentrer dans le giron des jésuites, mais Juste-Libre est parti à Rome, il a été secrétaire du cardinal de Granvelle dans les années 85, je ne me souviens plus exactement les dates, bon, enfin, à la toute fin du 16e siècle, pardon, il part à Rome avec le cardinal de Granvelle, lequel cardinal de Granvelle est un amateur d'antique absolument extraordinaire, et quand il est rentré à, donc ensuite à Louvain, et il va écrire donc toute une série de traités, alors qui sont en latin, mais bon, c'est pas un latin très très difficile à lire, et donc il fait toute une série de traités sur l'amphithéâtre, sur les mirabilia de Rome, il y en a 6 ou 7, qui devaient constituer, alors pour ça, alors d'un côté c'est très intéressant pour nous effectivement, puisqu'on a ce regard d'un, déjà, moi c'était la thèse que j'avais défendue, et Jean Juas en était d'accord avec moi, déjà un premier regard d'archéologue, c'est-à-dire une mise à distance de l'objet qui est étudié, non plus dans l'empathie du Bellé, sur les regrets de la Rome antique, etc. Mais déjà, comment ça marche, comment se pose la question, il y avait des fameux amphithéâtres qui étaient sur des axes qui tournaient, etc. Et il se pose un tas de questions à partir des textes, il a essayé de confronter avec le peu qu'il a vu, puisque quand même les ruines sont importantes, et il questionne à partir d'objets et de textes, il questionne l'histoire de l'Antiquité. Ça, c'est très, très important. Mais il y a encore dans cette démarche de Juste-Lipse, il y a encore cette idée de modèle qui reste. Hein. Il écrit, d'abord, il dédie tous ses petits traités, il les dédie à des différentes instances politiques d'ailleurs. Alors, en les félicitant, tiens, j'aurais pu mentionner ce texte, hein, celui sur l'amphithéâtre ou d'autres. Donc, il remercie les États en disant qu'effectivement, dans ces temps difficiles, malgré tout, il protège la littérature, il protège les arts. Toujours cette idée, et cette idée aussi que la paix est favorable à la littérature et aux arts. C'est un truisme, mais elle est répétée sans cesse quand on vit cet état de guerre, on le répète sans cesse. Et donc, il explique dans une de ses lettres, la correspondance a été publiée maintenant, et bien il explique dans une de ses lettres, effectivement, qu'il a voulu écrire le flambeau du livre, ça s'appelle Fax, le flambeau de l'histoire, justement, pour donner aussi des modèles à ses contemporains. Mais ça n'est pas des modèles à imiter, mais des modèles de réflexion, parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas imités. Donc il y a vraiment, je pense, la constitution d'une pensée historique qui est favorisée par cette mise à distance de l'Antiquité, finalement. On n'est plus dans une empathie, mais on l'aborde comme un objet, on s'interroge, vont se développer aussi, là, c'est un point très important, hein, les éditions de textes antiques, d'historiens antiques en particulier, il y a une édition d'ailleurs de Tacite par Juste-Lipse. Hein. Et bien là, ce qu'il faut lire, ce sont les annotations. Il y a des annotations qui sont absolument extraordinaires. On apprend une quantité de choses sur la vision que les gens du 17e ont sur l'Antiquité à partir de cette notation qui est extraordinaire. Ce n'est pas très amusant parce que ça fait des lectures qui sont un peu coupées, enfin, et discontinues. Mais en même temps, on se rend compte du type de questions justement qu'ils se posent et de ce que leur apporte l'histoire. Il y a des analyses qui sont en train de naître aussi, il y a des choses plus développées que ces annotations, mais les annotations en elles-mêmes, il y a ce genre aussi. Alors le frère de Rubens qui s'appelle Philippe, a fait aussi a écrit aussi, c'était un érudit qui est mort jeune, un ouvrage effectivement sur des remarques qui se suivent, qui sont juxtaposées sur la Rome antique et tout. Avec Rubens, les deux frères Rubens se sont trouvés à Rome ensemble, alors que Philippe Rubens était le secrétaire de Colonna, et ça a permis aussi à Rubens d'avoir accès à des collections qu'il n'aurait peut-être pas toujours pu voir. Voilà, ça c'est. Mais vraiment, c'est très important de voir peut-être cette démarche, Je n'y avais jamais prêté attention. Merci d'avoir suscité cette réflexion, cette démarche qu'ils ont ces annotations. Ça s'appelle les lectionnesses. Hein. Il y en a des volumes entiers. Je répète, ce n'est pas du tout amusant à lire. J'en ai eu quelques-uns. J'avoue que ce n'est pas vraiment une lecture qu'on fait le soir pour rêver un petit peu. Non, hein, c'est un peu aride et un peu austère. Mais en même temps, c'est extrêmement riche en renseignements sur les modes de pensée, sur le rapport à l'histoire qu'avaient les contemporains et la façon aussi dont est justement comment se constitue aussi cet imaginaire, puisqu'on parlait également du héros épique et un héros épique qui va se distinguer, être différent finalement d'Ulysse et d'Énée. On a un nouvel ou d'Achille encore, un nouvel héros épique est en train de naître qui est dans des lieux différents d'ailleurs aussi. Hein. Bon, et qui a une conception de la vie totalement renouvelée finalement par rapport au modèle antique. Chaque fois, c'est cette question qui se pose. Hein. Chaque fois, il y a ce modèle qui est là, qu'ils connaissent. Hein. C'est certain, absolument tous les auteurs, puis les grands peintres hein, connaissent tout ça. Et d'un autre côté, il y a cette interrogation justement sur qu'est-ce qu'un homme du XVIIe siècle, si j'ose dire, hein, et cette une réflexion qui se construit petit à petit. Alors c'est vrai qu'on manque cruellement de journaux intimes ou d'autres choses comme cela, mais les correspondances aussi, on regarde pas assez les correspondances, on apprend beaucoup de choses hein, avec les correspondances. Mais c'est pour entrer dans la... Parce que le rêve, ça serait de pouvoir entrer hein, dans l'esprit. C'était Alain Michel qui disait « Ah, j'aimerais faire les mêmes rêves que Cicéron. » Ça,